Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à animation, accompagné de Pierre Pageot. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Guy Ménard.
Et Maxime à la régie.
Ne pas oublier de remercier Maxime.
Toujours.
Parfois, nous terminons l'émission et nous avons oublié de remercier.
C'est pour ça que maintenant, j'ai fait une introduction, parce que lorsqu'arrive la fin, on dit bonjour.
Bon, ben,
on parle parfois un peu trop.
Bravo,
donc
Guy. Bravo.
On se connaît. Et c'est le week-end des festivals, Pierre.
Je crois que oui.
Oui, hein, donc Cinémania qui se termine.
RIDM.
Et les rencontres étincelles du documentaire de Montréal qui débutent. Donc, nous allons consacrer notre émission, bien sûr, au RIDM, également à Cinémania. Trois segments. Nous terminons avec Antonin Gaudry, en fait, Baudry, en fait, de parler Le Chant du Loup. Hein? Oui. Donc, de Cinémania. Nous allons également recevoir Pas d'art pour Calsaca de Michel Kazongo.
Hein? Oui.
Et nous débutons l'émission avec Hassan Farhani et pour 143 rue du Désert.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Bonjour, bonjour.
Le plaisir est pour nous, monsieur.
En fait, de résumer votre film, moi, je voyais ça comme un seul et unique personnage féminin qui crève l'écran.
il y a le personnage de la maison.
Il y a le personnage de la
maison. Il y a
le
personnage de l'arbre, mais c'est bien sûr Malika, c'est son nom.
Ah ouais. Et cette femme d'à peu près 70 ans, cette tégénaire de caractère, où l'avez-vous trouvée? Parce que c'est tout le film repose finalement sur elle.
Alors, c'est bien dit parce que c'est une sacrée femme et
ouais,
c'est aussi un lieu qui est habité par une âme. Et j'ai rencontré Malika, j'étais sur les routes en Algérie. Je voulais écrire un road movie, comme c'est maintenant le plus grand pays d'Afrique. Après la division du Soudan, je me suis dit, c'est le moment pour moi de faire un road movie. Donc, je suis parti sur les routes, accompagné d'un copain à moi qui est écrivain. Et ce copain écrivain en question, qui s'appelle Chaouki Amari, a écrit un superbe livre qui s'appelle National 1, du nom de la route qui descend...
Ah, la route, là, qui...
principale, qui descend d'Alger jusqu'à Tamen Rasset et qui va jusqu'au Niger. Et dans ce livre qui est sorti il y a une dizaine d'années, il parle des rencontres qu'il fait sur la route. Il parle de cette femme incroyable qui s'appelle Malika et qui tient un relais routier dans le désert à 1000 km au sud d'Alger. Donc au début, j'y croyais pas si c'était une fiction ou quelque chose qu'il avait sorti de sa tête. Et à force, donc sur les routes, je lui dis « Et tu crois pas qu'on pourrait aller voir Malika pour le road movie qu'on est en train d'écrire ?» Et on est rentré chez Malika... On était à 300 km, c'était à côté dans le désert, les distances longues comme ça sont à côté, 300 km, c'est rien du tout.
On prend la voiture, puis on fonce.
Et du coup, je suis rentré chez elle, et là, j'ai eu comme un coup de cœur pour la femme, pour le lieu, et pour ce que ça a dégagé comme atmosphère. Et je me suis dit, en fait, mon road movie, il est là. C'est un road movie inversé.
C'est inversé. C'est les
ça.
Clients qui sont
c'est les clients qui arrivent.
Sont les témoins de...
Un road movie, c'est des routes. Je suis sur la route principale de l'Algérie, celle où il y a tous les routiers qui descendent. Un road movie, c'est des personnages. Et donc, je me suis dit, je m'installe ici, chez Malika. Et une des premières choses qui m'avait frappé, c'est elle assise au café et qui est en face de sa porte d'entrée. Et la porte d'entrée était comme un écran de cinéma.
Absolument.
Et elle commente tout ce qui arrive à elle. Et je me suis dit, en fait, je vais m'installer ici. Et sans prétention aucune, j'ai imaginé, en tout cas en faisant ce film, comme le lieu, comme le centre du monde. Le centre du monde vu par Malika. Malika qui accueille comme une...
mère, hein?
Comme une mère, comme une sœur, comme...
Mère Thérèse.
Ouais, et aussi un lieu où on arrive avec ses problèmes et...
Un confessionnal.
Ah, exactement, le mot, c'est ça. Et aussi Agora, parce que il y a quelque chose dans ce lieu qui est incroyable et que j'espère, avec ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, ça va le devenir. C'est un lieu de démocratie où chacun peut venir et dire ce qu'il a envie de dire dans le respect de chacun. Et Malika est là pour les écouter.
Oui, parce qu'il faut quand même mentionner que ce petit resto, ici on pourrait dire une bicoque. au Québec, et offre des omelettes. Hein?
Ah oui.
Du thé, puis des cigarettes. C'est à peu près ce qu'on voit dans le film.
C'est le thon.
Le thon,
voilà,
ouais.
C'est tout.
Même un frigidaire. Que je me demandais comment fait-il fonctionner régulièrement.
Au gaz. Moi aussi,
OK, parce que j'ai cherché les fils d'électricité. J'ai dit, j'en vois pas.
Alors, elle n'a pas d'électricité. C'est le vieux frigo qui fonctionne avec des bouteilles de gaz.
Ah, OK. Ah, on a vu une bouteille de gaz.
Ouais.
Et là, on comprend que les gens qui s'arrêtent sont des gens qui ont le goût, finalement, d'établir une rencontre. Et c'est ça aussi, je veux dire, je pense que la force de votre film, c'est d'avoir trouvé un lieu. Vous parliez d'Agora, je trouve ça très juste comme commentaire, parce qu'essentiellement, c'est les gens on le, sont soi-même. Et c'est votre film réussi à filmer le temps, à filmer ses rencontres, avec parfois des non-dits, avec parfois finalement des silences qu'on voit de moins en moins au cinéma, pour rétablir ce qui est un peu le sens, je pense, des conversations qui peuvent exister entre Malika et ses voyageurs et qui deviennent presque des amis ou des confidents à certains moments.
Et je dirais, en plus, chez les routiers, il y a une certaine philosophie de vie, parce que comme ils sont sur la route, tout le temps, c'est des gens qui voient énormément de choses. Et un routier un jour m'a dit, il me dit, c'est le seul métier au monde où tu regardes en face de toi et tu regardes derrière toi dans le rétroviseur. Et quand ils arrivaient à l'intérieur du café de Malika, ils comprenaient la démarche. Ils voyaient un réalisateur avec sa caméra, un ingénieur du son. Tout de suite, en fait, on comprenait le dispositif du film. Donc, j'avais même pas besoin des fois d'expliquer quel film j'étais en train de faire. Et ça, c'était fascinant. Et pour certains protagonistes, donc ils rentrent dans le café, ils s'assient et ils ne regardent même pas la caméra. Comme quelque chose de une compréhension totale par rapport à ce qu'on était en train de faire.
Et,
oui, Pierre?
Moi, je trouve intéressant aussi. Moi, j'ai vu beaucoup un portrait de l'Algérie. Moi, je suis jamais allé en Algérie. Mais j'ai l'impression que ce film-là, ça n'existe pas, le portrait parfait, complet, ça n'existe pas, mais il m'a semblé que, moi, j'ai perçu plusieurs choses de vécu, du questionnement, même de la danse, de la musique, qui tiraille, qui travaille la société algérienne. Donc, moi, je trouvais que c'est, à travers ce tout petit lieu, microcosme, vous avez une image macroscope de l'Algérie, en tout cas.
Alors, on me le dit souvent, alors dans mes films, c'est souvent des huis clos. Le précédent film, c'était un film dans les abattoirs d'Alger, où je suis resté avec les ouvriers des abattoirs. Et c'était un film qui parlait de tout sauf de viande. On était sur la vie, l'amour, la philosophie, la poésie. Et pour ce film, c'était un exercice différent, parce que les routiers qui rentrent n'ont pas beaucoup le temps. Mais c'est aussi forcément, même si ce n'est pas ma démarche première, parce que ma démarche première, c'est le cinéma. Je me dis... Ouais. J'ai envie de faire un film. Je ne me dis pas j'ai envie de faire un sujet. J'ai envie de faire du cinéma avec ce personnage qui est Malika. Et forcément, en creux, ça devient un portrait de la société d'aujourd'hui. Parce que les routiers, ils arrivent avec aussi toutes les questions que traverse le pays. Avec, et comme ce routier qui parle des salaires, ça parle de politique. On est forcément à côté de quelque chose. Mais mon envie première, c'est de me dire comment je vais faire un film et mon scénario, c'est la matière du réel qui m'entoure. Et sans avoir peur de la mise en scène.
Mais non, c'est très cadré.
Parce que vous faites des choix et qui sont parfois rigoureux, mais qui cadrent effectivement toujours avec le sujet. Parce que votre caméra, elle est fixe, plus souvent qu'autrement. Parfois, elle se déplace.
Souvent, c'est frontal.
Mais c'est frontal. On a un beau travelling de 360 degrés pour pouvoir nous rappeler, je veux dire, la région. Mais régulièrement, vous, je veux dire, cadrez frontalement les personnages et vous les regardez.
C'est le cinéma que j'aime. C'est le cinéma qui prend son temps aussi. Je suis resté pratiquement 2 mois avec Malika sur place. On ne peut pas aller... Il y a eu des reportages faits à la télévision sur Malika, mais c'est des reportages larmoyants. Ouais,
gens débarquent là une demi-journée. Puis,
avec la musique, le violon et tout. Mais là, c'est comment rendre Malika réellement dans ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme forte qui a décidé d'écrire son histoire au milieu de nulle part. Parce que c'est un peu ça l'idée du film. C'est une femme qui a quitté le nord pour aller s'installer dans le sud, dans un lieu où il n'y avait que des chacals et des scorpions. Et voilà. Mais l'envie première, je commence par le cinéma et ensuite tout le reste peut arriver, peut entrer dans le film. Donc la sociologie, l'histoire du pays, tout ça, je lui laisse une place. Mais je laisse surtout une place à l'inattendu. Okay. Au surgissement, ce qui peut arriver, mais en ayant une croyance dans le réel, comme ces gars qui débarquent, les musiciens.
Ben
qui,
oui.
Qui jouent, et là, on est en pleine agora. Hein?
En pleine agora, effectivement. Là, ou cette Polonaise, par exemple, qui débarque, qui fait le tour du monde et qui arrive dans ce lieu. Mais ça, c'est inimaginable. Jamais un jour, j'aurais pensé que...
Oui, c'est comme une extraterrestre.
Ouais, exactement.
C'est comme... Mais la lumière est bien importante. Je trouvais que votre cadrage sur l'écran, la porte, c'est... Un écran au cinéma, c'est la lumière. Vous avez la chance, évidemment, d'être dans un pays qui a...
Très ensoleillé.
Mais vous-même, vous l'avez retravaillé ou non? C'était facilement la lumière que vous vouliez?
Alors, il fallait que je prenne une caméra qui accepte les hautes lumières. Donc, j'ai fait quelques tests avec d'autres caméras qui encaissent moins les hautes lumières et ça ne marchait pas. Donc là, la Sony que j'ai pris, ça me permettait d'être dans des hautes lumières et avec des filtres, j'en aimais beaucoup quand même, pour pouvoir accepter toute la lumière qui rentre à l'intérieur. Et ensuite, il y a le cadre qui, pour moi, est très important. J'essaie vraiment de construire mon cadre à chaque fois et de jouer aussi le cadre dans le cadre. Ça, c'est quelque chose dans le cinéma qui parle, parce qu'on a le point de vue, on a le découpage du plan, de l'histoire. Donc voilà, j'essaie de faire en tout cas attention à la forme du film autant qu'au fond du film.
Ben oui. Donc je vous rappelle que nous sommes avec Hassan Farhani afin de discuter de 143 rue du désert. Pardon. Vous parliez du cadre, mais c'est important de mentionner que vous êtes directeur photo. Donc c'est une équipe de quoi? Deux personnes?
C'est une équipe de deux.
C'est ça? Le cadre et le son?
Oui.
Et voilà.
Mais on n'a pas besoin de plus.
On n'a pas besoin de plus.
On ne peut pas débarquer à quatre chez Malika. Non, ou à trois.
C'est possible.
Et ensuite, le montage chez vous, c'est...
Le montage, non. J'ai travaillé avec deux monteuses différentes, mais sur une période de 9 mois à peu près. C'est comme un accouchement.
Il y avait combien d'heures
On est à peu près à entre 45 et 50 heures de rush.
Parce que lorsqu'on regarde le film, effectivement, on sent qu'il y a vraiment une structure narrative. Hein?
Ben oui.
Et là, je me disais, comment arriver à créer le souffle, je veux dire, de ce lieu, hein? Conserver plutôt le souffle de ce lieu à travers toutes ces rushs, ces 50 heures de rush? C'est ardu, hein?
Ah, c'est compliqué.
Ça doit être très compliqué, hein? Parce que là, on voit, on s'imagine qu'il y a certains décalages, certaines personnes qui reviennent et tout. Donc, pour arriver avec un seul lieu, à peu près toujours un seul cadre, avec toujours un seul personnage, et de pouvoir, pendant presque 100 minutes, hein, nous tenir en haleine, c'est tout un exercice de montage.
Oui, alors... Pour moi, le montage est beaucoup plus difficile que le tournage.
Ah, ça me surprend pas. C'est un exercice de création.
Ah oui, c'est une troisième écriture. Il y a la première écriture qu'on fait en repérage quand j'ai rencontré Malika, celle qu'on fait pendant le tournage. Et celle que je fais pendant le tournage, c'est plutôt je sais ce que je ne veux pas. Ça se situe là. C'est bien de savoir ce qu'on veut pas plus que ce qu'on veut. Je savais par exemple que les face caméra, quand on me parle, c'était des choses qui ne m'intéressaient pas, des choses comme ça. Après, pour l'écriture en montage, le challenge, il y en avait plusieurs. Comment faire un portrait de Malika
en conservant cette dimension humaine, hein?
La dimension humaine et garder une part de mystère de sa vie.
Voilà.
Oui.
Parce que je ne révèle pas tout.
Non.
Et ça, c'est un choix qu'on a fait de ne pas raconter pourquoi Malika a quitté le Nord pour s'installer ici. C'est quelque chose qu'on a...
Mais vous saupoudrez quelques éléments parce que...
Vous ajoutez même ces petits mensonges.
Ouais, alors, donc, parce qu'on parle du moment terroriste.
Exactement, exactement.
On peut imaginer.
Voilà. Ça reste ouvert, on peut imaginer. Mais je ne donne pas la cause exacte que j'ai, hein, que Malika pouvait aussi nous le donner. Ensuite, je me suis appuyé sur je ne sais pas si je peux le dire, mais oui, je peux le dire, hein, la station-service qui pour moi était un élément narratif qui est tombé de nulle part et qui était magnifique pour quelqu'un qui fait du cinéma. Je m'appuie sur ça parce que c'est un nouveau monde qui arrive.
C'est exactement. Souvent dans le cinéma africain, il y a toujours ce thème entre la confrontation entre l'univers traditionnel, guillemets, et l'arrivée de la modernité, puis...
Parce que Malika est intéressante à ce niveau-là, parce que moi, je la voyais aussi comme un passage vers quelque chose d'autre. Parce que dès le départ, vous nous la présentez et on voit sa main, hein, qui tremble un peu. Et oui, cette femme a un certain âge, mais on assiste peut-être à la fin de quelque chose, hein, et au début de quelque chose d'autre. Et peut-être que ces rassemblements humains vont disparaître avec l'arrivée de... Est-ce qu'on peut parler de mondialisation, peut-être, avec cette station-service puis qui va offrir de nouveaux repas?
Ouais,
donc, je trouvais ça fort pertinent là, de pouvoir confronter, je veux dire, ce personnage-là à c'est ça, cet immense, finalement, site qui est en train de voir le jour.
Mais c'est exactement ça. Donc, l'exercice d'équilibre du montage, c'était trois strates différentes. Donc, Malika et sa vie. Le deuxième, c'était l'arrivée de cette pompe à essence, la menace que ça représentait. Et le troisième, c'était les routiers et le portrait qu'on faisait de l'Algérie. Et avec tout ça, il fallait mixer tout ça et essayer de donner du rythme. Donc, on est passé par plusieurs versions différentes. Une première qui faisait 2h20. D'ailleurs, ma productrice, qui est aussi réalisatrice, voulait absolument qu'on garde cette durée qui nous emmenait dans la temporalité
extrême.
Ouais. Mais vous avez des grands moments de silence. Ouais. Ça donne une...
C'est ça.
Respiration.
Et ensuite, on est arrivé à 2h10, et pour arriver à 1h40, qui pour moi était la durée du film, non pour des questions de formatage ou de quoi que ce soit, mais je pense que ce que je voulais raconter dans le film était là.
Et votre film aborde un élément un peu symbolique ou mystique, je ne sais pas, peut-être le mot mystique est peut-être plus juste, sur ce désert. Parce que oui, il y a Malika, oui, il y a bien sûr ces voyageurs, mais il y a aussi, je veux dire, quelque chose qui nous appartient à notre imaginaire, qui est lié au désert. Puis dès le départ, vous commencez avec cet homme qui recherche finalement quelqu'un dans le désert.
Au début, l'ouverture, le son du vent et tout, c'est tout de suite, il y a comme un univers physique.
Et vous terminez avec ça. Et là, le désert prend forme.
Ouais.
Et
complètement.
Oui, le son, c'est bien que tu le mentionnes, mais c'est important aussi de pouvoir finalement situer ce lieu-là dans un ensemble qui est beaucoup plus vaste.
Alors, il y a cette dimension mystique que j'ai essayé de donner au film, et parce que Malika le dit, que c'est une femme de la Zawiya. Et pour moi, ce lieu, je l'ai imaginé aussi comme un mausolée. Mais profane, hein, pas dans le sens religieux, parce que Malika a une vraie croyance et que c'est quelqu'un qui sent les gens. C'est quelqu'un qui arrive à sentir le feeling, elle a quelque chose de rapport humain très fort. Dès que quelqu'un rentre, elle sait si c'est...
Si c'est une bonne personne,
si c'est une bonne personne ou pas. Oui. Par exemple, la séquence où je tourne autour de son café... C'est quelque chose que j'avais lu dans un livre, dans un mausolée qui n'est pas très loin de chez Malika. On fait le tour trois fois avant de rentrer dans ce lieu. C'est comme dire bonjour au saint. Et je pense que Malika, pour moi, est une espèce de sainte. Et que j'ai essayé quand même de donner cette dimension mystique un peu. Et avec ces gens qui cherchent aussi des gens. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois un routier qui m'a dit, il m'a dit tout le monde cherche quelque chose dans le désert. Et cette phrase m'a marqué.
Oui, c'est ouvert.
Ouais.
Est-ce que Malika avait des résistances à être filmée? Parce que c'est pas l'impression qu'elle nous donne. On a l'impression qu'on rentrerait là, puis on la verrait exactement comme vous nous l'avez présenté. Mais est-ce qu'elle avait aussi ses moments de cacheterie, puis qu'elle vous disait non, là, tu rentres pas dans cette bulle qui m'appartient?
Alors, pas du tout. Mais on a eu des discussions. Dès que j'ai eu son accord, je lui ai dit je reviens 2 mois après. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, tu reviens, tu es chez toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné chez elle. Et ensuite, non, on a eu juste une discussion par rapport à ce qu'on révélait de son passé.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'on ne révélait pas. Mais c'est tout. Mais sinon, tout le reste. Et d'ailleurs, Malika, la semaine dernière, on était à Alger pour présenter le film ensemble. Et quelqu'un, après la projection, d'ailleurs, pour présenter le film, elle a dit « Je suis la femme du désert et je viens chez vous à Alger. » C'était magnifique comme introduction. Et quelqu'un, après, à la fin, lui a demandé « Malika, est-ce que tu as aimé le film ?» Et elle lui a dit « Mais comment veux-tu que je n'aime pas ? C'est mon film. »
Ah, mon film.
C'est mon film.
Mais tu dois être fier de ça, toi aussi.
Ah, mais carrément. Mais même pendant le tournage, elle le disait. Et ça, c'est très fort. Quand on arrive à voir ça, c'est...
Et pour moi, c'est très représentatif de ce qui est l'essence du documentaire. C'est-à-dire qu'on filme des gens et il faut être capable d'établir cette complicité. Et ça, je veux dire, ça ne ment jamais. Hein? Ça ne ment pas lorsque les protagonistes, entre guillemets, acceptent le jeu. Puis vous gardez les moments où elle vous parle ou ainsi de suite. Je pense que c'est important. Mais lorsque cette complicité, il y a quelque chose de vrai.
Et d'ailleurs, elle a une phrase incroyable à un moment quand elle dit « Les gens mentent, mais ne savent pas comment mentir. »
Ça, c'est vrai, ça.
Et c'est quelque chose que j'essaie de questionner dans le cinéma que je fais. Parce que la question du mensonge et de la vérité, elle est posée dans le documentaire
toujours,
tout le temps.
Le cinéma,
tout le temps.
Ouais. Donc, on rappelle que 143 rue du Désert est présenté ce soir. Hein? Donc, dernière projection, il faut absolument aller voir ce magnifique film au cinéma du Parc 3 à 18h15. Et bien sûr, vous allez être sur place pour pouvoir répondre aux questions.
Carrément.
Hein, carrément. Et on espère que, pour différentes raisons, il y a une autre salle de cinéma qui va vouloir le présenter. Donc, merci beaucoup, Hussein Farhani. Donc, 143 rue du Désert, bien sûr, présenté dans le cadre des rencontres, 22e rencontre internationale du documentaire de Montréal.
Merci pour l'invitation.
Merci.